Bonjour mes frères et sœurs. Ce matin, nous allons faire une lecture dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Je voudrais lire dans la version Parole vivante. 1 Corinthiens 12, chapitre 12, verset 12. Car Christ est semblable à un corps humain, avec ses divers membres et organes. Tout en ayant beaucoup d'organes, le corps forme un tout. Ces organes, malgré leur multiplicité, ne constituent ensemble qu'un seul corps. Il en est bien ainsi de Christ. Car nous avons tous été plongés dans un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres. Et c'est de ce seul et même esprit que nous sommes tous abreuvés et imprégnés. Un corps n'est pas composé d'un membre unique, mais de plusieurs. Si le pied disait « Moi, je ne suis pas une main, je ne fais donc pas partie du corps », en ferait-il moins partie pour cela ? Et si l'oreille se mettait à dire « Moi, je ne suis pas un œil, je ne fais donc pas partie du corps », cesserait-elle d'en faire partie pour autant ? Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il ? Et s'il pouvait seulement entendre, où serait l'odorat ? Heureusement, Dieu a assigné à chaque organe sa place et sa fonction dans le corps, comme il l'a trouvé bon. Car si tout le corps était constitué d'organes identiques, serait-ce un corps ? En fait, bien que les organes soient nombreux et divers, ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi, ni la tête aux pieds, je peux fort bien me passer de vous ». Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes, celles qui sont faibles, cachées, sont particulièrement nécessaires, et celles que nous estimons les moins dignes d'intérêt sont celles que nous prenons, dont nous prenons le plus grand soin, de sorte que nous les traitons avec des égards dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a fait de notre corps un ensemble harmonieux dans lequel il a disposé les différentes parties de manière à donner une fonction essentielle aux organes les plus humbles, afin qu'on honore davantage ceux qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et donner aux différents membres le sens de leur solidarité réciproque. Que chacun d'eux ait le souci des autres et leur témoigne une égale sollicitude. Un membre souffre-t-il ? Tous les autres en pâtissent et s'ouvrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur ? Tous les autres partagent sa joie. Or, vous constituez l'ensemble du corps de Christ et chacun de vous, pris à part, en est un membre ou un organe auquel Dieu a assigné sa place et sa fonction. Que Dieu ajoute sa bénédiction à ce que je vais vous dire ce matin. On peut être reconnaissant, mes frères et sœurs, reconnaissant et remerciant Dieu de nous éclairer comme il le fait depuis qu'il est en train de restaurer toutes choses. Nous savons que Jésus est le premier-né de toute la création, on le sait par Paul, qu'il le dit, on trouve ça dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 1, verset 15. Nous savons que Jésus a tout créé pour lui, tout, et que tout, absolument tout, subsiste, où ça ? En lui. Où ça alors ? Ben, dans son corps, en lui. Il est la tête de ce corps, nous avons appris cela, et ce corps, c'est son Église, la véritable Église. Il n'y a rien en dehors. La réalité, mes frères et sœurs, elle est spirituelle. Est-ce que nous voyons la matière et toutes les énergies qui sont dans cette création sont spirituelles. Il nous est donné de constater, de contacter la matière et les énergies avec nos sens et avec notre intelligence. Mais ce que nous voyons, toutes ces choses-là que nous touchons, que nous sentons, que nous goûtons, etc., avec nos sens et avec notre intelligence, ce que nous percevons, n'est que ce qui nous est donné de contacter dans un laps de temps donné, c'est-à-dire dans un temps fixé par Dieu, dans un espace limité et provisoire que nous appelons création. Alors, tout est en Dieu. Est-ce que vous pouvez croire cela ?
De tout ce qui existe, Il est l'alpha et l'oméga. En dehors, il n'y a rien. En dehors, il n'y a rien. Tout ce que nous pouvons contacter avec nos sens, avec notre intelligence, tout ça, ça fait partie de lui. C'est pas tout, parce qu'on n'a pas accès à tout, mais ça fait partie de lui. Tout est en lui, rien n'est en dehors de lui, parce qu'il n'y a rien en dehors de lui. Il faut que ça soit clair. Est-ce que vous pouvez croire ça? Moi, je peux croire ça parce que c'est écrit. Mais si je dis simplement, ah, c'est écrit, point final, c'est gentil. Mais si je crois ce qui est écrit et que je commence à y réfléchir, ah, là, il faut vraiment que mon intelligence soit renouvelée parce que sinon, ça commence à faire peur. Quand on ose contacter le spirituel avec notre intelligence, il faut vraiment que notre intelligence soit renouvelée par le Saint-Esprit. Sinon, on va dérailler. Parce que en lui, il nous est dit, puisqu'il n'y a rien en dehors de lui, en lui, il y a besoin d'une réconciliation. Il veut cela. Il veut tout réconcilier avec lui-même. Colossiens 1, 20. Mais tout est en lui. Et il veut réconcilier tout avec lui-même. Ça signifie bien qu'il y a eu un problème et qu'il y a encore un problème. D'ailleurs, on ne peut pas se voiler le visage. Il y a vraiment un problème. Mes frères et sœurs, il n'y a rien en dehors du corps de Christ. Tout est en Christ, c'est-à-dire dans son corps. Tout est en lui. Mes frères et sœurs, ce corps est malade. Ce corps est malade. La matière est malade. Voyons ça. Jésus est la tête de ce corps. Tout subsiste en lui, en Christ. Ça, c'est dans Colossiens 1, 17. Dans la tête de ce corps. Mais le corps lui-même, il est malade. Ce corps malade n'est pas en dehors de Christ. Lui, il en est la tête. La tête n'est pas malade, mais le corps, oui. C'est pourquoi la Bible nous dit que à la fin des temps, les souffrances, les horreurs, toutes les choses que nous verrons sont semblables aux douleurs de l'enfantement. Il y a des contractions qui se rapprochent, qui s'accélèrent, qui viennent de plus en plus fortes parce que quelque chose va arriver. Quelque chose est sur le point de naître. Les douleurs de l'enfantement que ressent actuellement toute la nature, toutes ces douleurs-là sont sa souffrance, sont ses souffrances. C'est le corps qui souffre, son corps. Il y a quelque chose dans ce corps qui n'est pas bienvenu, que Dieu veut éliminer. Il ne peut pas y avoir de réconciliation s'il n'y a pas cette élimination. Quelque chose de vivant qui cherche à détruire ce corps. Et cette partie du corps rebelle, cette partie du corps désordonnée, doit être évacué par le corps. La tête le veut, c'est la volonté de Dieu. Mais c'est le corps qui doit éliminer ça. C'est pourquoi actuellement, l'univers entier a la fièvre. Vous savez, le corps de Christ a des membres et nous sommes ses membres. Et parmi nous, il y a des membres qui peuvent paraître insignifiants. Il y en a qui peuvent paraître faibles. Et il y en a qui ne peuvent pas paraître du tout parce qu'ils sont cachés. Eh bien, ce n'est pas parce qu'ils sont faibles ou parce qu'on les cache qu'ils sont négligeables. Pas du tout. Il ne faut pas se tromper d'ennemi. Ce ne sont pas les membres qui souffrent de faiblesse, de déshydratation, de force ou d'honneur qui sont à combattre. Ce qui est à combattre, c'est ce qui cherche à tuer le corps. C'est spirituel. Mais Jésus et Paul nous donnent cette image du corps physique pour qu'on comprenne la réalité du combat. Quand on est gamin, on pense que la fièvre, c'est la maladie. Non, La fièvre n'est pas une mauvaise chose. La fièvre, justement, est une arme contre le mal qui attaque le corps de l'intérieur. Le corps est attaqué de l'intérieur. Il peut pas. Il n'y a pas d'attaque à l'extérieur du corps de Christ, puisqu'il n'y a rien en dehors de Christ. Tout a été fait par lui, pour lui, et tout est en lui. Mais alors, bien sûr, nous devons faire attention avec la fièvre de ne pas la laisser dépasser des limites. Nous devons maîtriser la fièvre, mais pas l'annuler. C'est une grave erreur. C'est un petit peu comme dans la culture dont nous parle Jésus, qui nous dit qu'il y a du blé qui pousse et en même temps il y a de l'ivraie qui pousse. Faut pas enlever l'ivraie tout de suite. Ça serait une erreur. On risquerait de se tromper et de faire une bêtise et d'enlever du blé en pensant que c'est de l'ivraie. Il faut laisser pousser tout ça ensemble. Et la fièvre, il faut la maîtriser, c'est vrai. Quand on a un petit gamin qui monte à 40-41, on le trempe un peu dans de l'eau un peu plus fraîche pour faire descendre la fièvre. Mais on n'essaye pas d'enlever la fièvre. Vous voyez, qu'est-ce que vous êtes dans le corps de Christ? Qu'est-ce que vous êtes dans ce tout? Qu'est-ce que vous êtes dans l'univers? Est-ce que vous êtes un membre souffrant? Est-ce que vous êtes un membre caché? Est-ce que vous êtes un globule blanc? Est-ce que vous êtes un globule rouge? Est-ce que vous êtes un anticorps qui va se battre pour aider un membre affaibli en détruisant la vie étrangère, démoniaque, qui est en train de l'affaiblir? Qu'est-ce que vous êtes dans le corps de Christ? Le corps de Christ a besoin d'un système immunitaire sain. Mais quand on prend l'histoire d'un corps humain, on s'aperçoit que des fois, il y a, n'est-ce pas, des systèmes immunitaires défaillants qui se trompent d'ennemis. Donc tout dans le corps peut être, n'importe quoi peut être malade. Et il faut prendre soin du corps. Si vous êtes le système immunitaire et que vous vous trompez d'ennemis, vous êtes malade, vous avez besoin de guérison dans le corps. Ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais, ça veut dire que vous avez besoin de guérison. Le corps de Christ est malade. Ne vous trompez pas d'ennemis. Paul dit que dans un corps, il y a des parties qui sont cachées. Est-ce qu'elles sont inutiles? Non. Pensez-vous qu'il n'y a que ce que vous voyez qui est de la valeur? On pense généralement dans les milieux évangéliques que les serviteurs de Dieu sont ceux qui sont en vue sur l'estrade avec un micro et en train de prêcher et d'enseigner. Certainement pas. Ce ne sont pas eux les serviteurs de Dieu. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Mais il y en a qui sont en vue, puis d'autres moins en vue. Mais nous sommes tous serviteurs et servantes de Dieu. Amen. Dans le corps de Christ, tout le monde se voit être, désire être la main ou quelque chose de noble, d'utile, de bien visible, d'habile. Je dis la main parce qu'en général, c'est ce qui est le plus actif, c'est ce qu'on voit le plus facilement. On joue pas du piano avec son nez, sauf, n'est-ce pas, notre frère, il joue du piano avec son nez. On joue avec les mains, c'est les mains qui sont, n'est-ce pas, toujours mieux. Alors on voudrait tous être la main. Mais qui s'élèvera dans le corps de Christ pour dire « je suis l'appareil digestif qui élimine » ? Il n'y a pas beaucoup qui veulent ça, hein ? C'est caché ça. Vous voyez, Paul parle de façon à être compris, et pourtant, il y en a beaucoup qui ne veulent pas comprendre. Que ferait-on sans les organes que notre pudeur tient cachés ? Ça serait bien embêté si tout d'un coup ces organes faisaient grève, hein ? Je dis bien embêté pour être poli. Pourquoi mépriser un frère ou une sœur parce que vous pensez que son utilité est douteuse dans le corps de Christ? Je dis que si Paul a osé prendre le corps humain comme exemple, c'est pas pour rien. Louis II, qui était un pudibond de première, Vous savez, c'est lui qui dit, par exemple, quand l'apôtre Paul parle, il dit « Je regarde tout comme de la boue ». En réalité, Paul ne dit pas de la boue, il dit du fumier. Mais Louis II est très pudibond, alors il marque de la boue. Bien, notre frère Louis II, qui est très pudibond, il dit « Les membres qui paraissent moins honorables » ou « Les membres les moins honnêtes ». Mais alors, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire « honnête ». Un membre de Christ qui manque d'honnêteté, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est pas un membre qui fait des choses malhonnêtes, comme on l'entendrait ici-bas, n'est-ce pas, dans notre culture du 21e siècle. Non, faut regarder le mot. Un membre qui les membres qui sont les moins honnêtes dans le corps de Christ, ce sont les organes qui ont une fonction qui s'écarte de ce qui est convenu comme convenable. Voilà ce que le dictionnaire. D'ailleurs, c'est les membres dont on ne parle pas à table. On ne parle pas de ce qu'ils font à table. Mais n'empêche que, on ne pourrait même pas aller à table s'ils n'existaient pas. Donc, on ferait quoi après, alors? Alors, bon, on sait bien qu'il y a des fonctions naturelles du corps dont on ne parle pas. Il est convenu de ne pas en parler, voilà, c'est tout. Et pourtant, si ces parties du corps se mettent en grève, tout le corps en souffrirait atrocement, croyez-moi. Il y a des choses que le corps de Christ doit éliminer. Et c'est peut-être parce que justement il y en a peu qui veulent être et qui fonctionnent, qui ont cette fonction-là. C'est peut-être pour ça que le corps est malade, il s'infecte. Le corps de Christ doit éliminer les choses qui puent. Le corps de Christ doit éliminer les choses comme la jalousie, comme la médisance, comme la fauchetonnerie, n'est-ce pas? Bien sûr. Le corps de Christ élimine. Et ça, c'est sa volonté, ça vient de la tête. Lui, Christ, la tête, il veut que le corps élimine les trucs immondes. Comme la vie de la maladie qui essaye de ruiner la vie du corps, ou tous ces esprits infâmes qui rôdent dans l'univers. Dieu veut éliminer ça. L'univers n'est pas en dehors du corps de Christ. Tout est en Christ. Et donc, il y a du bon et du nuisible dans ce tout. Le corps de Christ se nourrit, comme notre corps se nourrit, et notre corps, il rejette ce qui est inutile. Parce que s'il ne rejette pas ce qui est inutile va devenir un poison, va devenir nuisible, oui ou non? Et Paul, pas seulement Paul, mais Jésus lui-même parle en disant que nous sommes son corps. Et il veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a des organes dans le corps de Christ qui sont faits pour ça, pour éliminer. Que pensez-vous des chasseurs de démons? Oh! Ils ont un rôle vital dans le corps de Christ. Voilà pourquoi on les entoure de bienveillance. Voilà pourquoi les chasseurs de démons ont besoin qu'on prie pour eux davantage, qu'on prenne soin d'eux, qu'on fasse attention s'ils sont en forme, s'ils sont pas découragés, s'ils ont de quoi vivre. On doit prendre un soin particulier des chasseurs de démons, parce que les chasseurs de démons sont exposés directement avec ce qui est le plus sale, avec ce qui est le plus infectant dans l'univers. Alors les gens qui se croient intellectuels se moquent des chasseurs de démons. Allez dans les églises officielles et parlez des chasseurs de démons. Mais on va dire, pouf, c'est des histoires du Moyen-Âge, mais non, pensez-vous les démons, mais enfin, voyons, mais alors. Pourquoi ils pensent comme ça? Parce qu'ils sont stupides, spirituellement parlant, ils sont stupides. Et ceux qui se croient des théologiens intellectuels et qui se moquent des évangélistes, n'est-ce pas, qui vont là où sont les pécheurs. Oui, mais lui, c'est qu'un évangéliste. Pourquoi est-ce qu'ils méprisent comme ça les évangélistes? Ils méprisent parce qu'ils pensent que c'est un ministère tellement simple, même un gamin peut le faire. Pourtant, ce sont les évangélistes qui sont les pieds dans le corps de Christ. C'est-à-dire, ce sont ceux qui touchent le sol, ce sont ceux qui touchent la terre, ce sont ceux qui se salissent au contact de la terre, qui sont là où sont les pécheurs. Des gens comme Raphaël le Gitan. Il est très, oui, mais si beaux devant Dieu. Oh, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui portent l'Évangile. Mais les faux intellectuels, cette bande de trolls, soi-disant chrétiens, vont dire, pfff, ils sont bêtes comme des pieds. Ah, oui. Le corps de Christ, mes frères et sœurs, est malade. Je suis en train de vous dire de quelle maladie il est atteint, là. La plus grave maladie en ce moment, c'est que le corps de Christ s'automutile. Il est blessé au talon, déjà par le serpent. Genèse 3, 16. Et étant mordu par le serpent, il y a un venin qui parcourt le corps de Christ, qui infeste le corps de Christ, qui empoisonne le corps de Christ. Le corps de Christ est malade. Le venin est entré en lui et le paralyse. Qui va faire un garrot au corps de Christ afin que le venin ne monte pas plus haut? Aucune oreille ne peut le faire. Est-ce que vous avez déjà vu une oreille qui pose un garrot? Aucun œil ne peut le faire. Il n'y a que les mains qui peuvent le faire. Les mains peuvent poser un garrot au corps de Christ qui est blessé au talon. Allez. Mais où sont les mains bénissantes? Où sont les mains bénissantes qui soignent? Ben, je vais vous dire, mes frères et sœurs, elles ont été ligotées dans le corps de Christ, les mains bénissantes qui soignent. Vous êtes des mains? Mais les mains, c'est féminin. On dit une main. Or, il n'y a pas de ministère féminin dans le corps de Christ. Ils ont ligoté les mains du corps de Christ parce que le corps de Christ, dans leur tête, il est masculin. Faites taire cette voix. Elle n'est pas une voix qui veut du bien au corps de Christ. Elle est la voix qui montait au jardin. Elle est cette voix qui accuse Dieu, traitant Dieu d'être un manipulateur mal intentionné. Levez-vous les mains. Levez-vous les femmes, levez-vous les mains, levez-vous dans la louange, levez-vous, joignez-vous les mains, joignez-vous dans la prière et agissez avec efficacité pour soigner le corps de Christ qui est malade. Imposez les mains, femmes, imposez-vous sur le corps de Christ. Amen. Et vous, qui êtes le corps digestif, qui êtes le système digestif, les organes digestifs du corps de Christ? Est-ce que vous allez digérer cela ou est-ce que vous allez simplement émettre un gaz nauséabond suite à ma prédication? Prenez cette parole médecine. Elle est un peu difficile à avaler. Vous connaissez, vous, des médecines qui sont bonnes? Les enfants, vous trouvez que les cachets, c'est bon? Non. Digérez et rejeter ce qui est nuisible. Il y a toujours du nuisible dans tout. Il y a du nuisible en tout. Mais mes frères et sœurs, l'inutile sert aussi à Dieu, ne l'oubliez pas. Tout a son utilité à un moment donné. À un moment donné. Regardez cette parabole de Jésus qui nous dit que le grain, s'il ne meurt, il ne peut pas donner d'épis, ne peut pas donner d'autres grains. Et qu'un grain, quand il meurt, il donne 30, 60 ou 100 grains. Oui, d'accord. Mais pour arriver à donner tous ces grains, il est obligé de mettre une tige et des feuilles. Cette tige et ces feuilles ont leur utilité. Mais à la fin, où est-ce qu'on les met, ces tiges et ces feuilles? Au feu. Elles sont éjectées, elles sont rejetées. Elles ont une utilité pour un moment. Donc, ne rejetez pas les choses avant qu'elles aient exercé leur utilité. Il y a du bon en tout, mais il y a du mauvais en tout aussi. Il y a du bon en moi, il y a du mauvais en moi, il y a du bon en toi, il y a du mauvais en toi. Ne te trompe pas d'ennemi. Quand quelque chose devient nuisible, alors il faut le rejeter. Ne vous trompez pas d'ennemi. Les membres du corps de Christ ne sont pas l'ennemi. Ce corps est malade en ce moment, c'est vrai. Et ce n'est pas rigolo, les malades. Les malades ont besoin de soins, pas de mépris, pas d'indifférence. Ils ont besoin de soins. Que tout le corps s'unisse donc pour lutter contre le mal. C'est un combat. Il y a la tête qui est Christ et qui veut. Il a tout créé. Tout. Tout est en Christ. Et le corps de Christ, c'est l'Église. L'Église, c'est l'univers entier, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi Dieu dit que tout est à nous qui sommes à lui. Mais il y a des choses qui vont être rejetées. Même le ciel et la terre vont être rejetés à la fin. Vous imaginez, le ciel et la terre. Et en son nom, nous qui avons été mis à part pour vivre dans le monde futur, en son nom, nous résistons contre le mal sous toutes ses formes et nous expulsons le mal au nom de Jésus. C'est ça notre rôle. Rien de mal n'entrera dans le monde futur. C'est une bonne chose. Dieu fait un tri. Et le tri, il se fait là, dans ce système créé. Qu'est-ce que vous êtes dans l'univers? Un agent du bien ou un agent du mal? Qu'est-ce que vous êtes? Un organe du bien ou un organe du mal? Qui que vous soyez, je vous exhorte à vous attacher à votre combat. Même si vous êtes un agent du mal, attachez-vous à votre combat, parce qu'ainsi vous montrerez votre identité, et nous, les bons globules, on saura où aller pour vous foutre en l'air. Montrez votre identité par vos actes. Contre qui vous battez-vous? Mon frère, ma sœur, à qui fais-tu du mal? Aux agents du bien ou aux agents du mal? Ça montre qui tu es. La tête dirige bien toute chose et toute chose arrive à sa maturité. Toutes choses sont en train d'être rétablies, d'être remises en ordre et commencent à paraître à la lumière. L'ivraie montre qu'elle est de l'ivraie, le bon grain montre de plus en plus qu'il est le bon grain. Les agents du mal montrent de plus en plus qui ils sont. Il est plus tellement difficile de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Fortifiez-vous et luttez contre le mal. Le corps est malade. Oui, oui, mais, mes frères et sœurs, il se guérit lui-même par sa propre puissance. Notre corps aussi devrait pouvoir se guérir par sa propre puissance. N'oubliez ces choses. Rien ne résistera à la puissance de la vie. La mort mourra. Le mal sera dissous. Seul ce qui est voulu de Dieu subsistera. Ce que Dieu ne veut pas, il l'éliminera. Et il compte sur vous pour l'aider à l'éliminer. Il est la tête, vous êtes le corps. Il y a des choses à soigner, il y a des choses à fortifier, il y a des choses à éliminer. Alors prenez votre part dans ces actions de guérison du corps de Christ et cessez de vous tromper d'ennemis. Amen. Jésus, veuille bénir mes frères et sœurs. Garde-nous dans ta paix. Permets-nous que nous puissions manifester ce que nous sommes avec de plus en plus de clarté pour que le combat soit de plus en plus clair et que nous arrivions bientôt à la fin et à cette élimination totale. Merci Seigneur parce que tu as préparé un endroit où tout sera jeté et où tout sera...